1800, campagne d'Italie 2, le retour. La France du premier consul a besoin de stabilité. Voilà pourquoi Bonaparte adresse des offres de paix à l'Angleterre, à l'Autriche, offres rejetées. Il va falloir garantir les frontières par la guerre. Alerte ! Les Autrichiens se préparent, encore, à attaquer la France par le sud. La paix ? Ils ne veulent pas en entendre parler. Le 18 février 1800, Bonaparte n'a pas le temps de savourer le résultat du plébiscite qui accueille sa nouvelle constitution, déjà mise en œuvre depuis décembre 1799. Plus de 3 millions de oui et seulement 1562 non, mais environ 4 millions d'abstentions. En mars, il prépare son plan d'attaque. Son idée, lancer deux armées qui vont converger sur Vienne. L'une d'elles passe par la Bavière, elle est confiée à Moreau. L'autre, l'armée d'Italie, retrouve son chef adoré, qui a décidé de déboucher par surprise dans la plaine du Pô. Il lui faut porter secours au plus vite à Masséna, isolée d'Angennes, car les troupes autrichiennes occupent toute l'Italie du Nord. Par où faut-il passer pour arriver sur l'ennemi en le surprenant, lui qui s'acharne à faire le siège de Gênes, ce qui va laisser à Bonaparte toute liberté d'action? Eh bien, il faut franchir les Alpes en passant par le Grand Saint-Bernard. Les habitants de la montagne déclarent qu'il est impossible d'effectuer ce parcours. La neige en altitude fait plus de 3 mètres d'épaisseur et les sentiers sont à flanc de montagne. Impossible ? Hannibal l'a bien fait au IIe siècle avant Jésus-Christ. C'est sans doute encore faisable. Voilà pourquoi Bonaparte décide que son armée, 60 000 hommes, 100 canons, des centaines de caisses de munitions et de vivres, vont franchir les Alpes. Les canons sont démontés, des arbres sont abattus et vidés de sorte qu'ils prennent la forme d'une auge où le fût est déposé. Puis 100 hommes s'y attellent avec des cordes. En 2 jours, la pièce se retrouve de l'autre côté de la montagne. Du 14 au 23 mai 1800, Bonaparte et son armée ont franchi l'infranchissable. Cet exploit va avoir un retentissement considérable dans toute la France. Bonaparte va alors se diriger vers l'armée autrichienne. Le 8 juin, l'avant-garde de Lannes s'élance avec 8000 hommes contre 18000 Autrichiens et surtout contre leurs canons et leurs fusils, à Montebello. En 2 heures, les Français, malgré les boulets qui pleuvent, les balles qui sifflent, sont vainqueurs. Le lendemain, Lannes peut dire à Bonaparte
« Les os de mes grenadiers craquaient sous les balles autrichiennes, comme un vitrage sous la grêle. »
Bonaparte commet alors une légère erreur de jugement qui a bien failli lui être fatale. Il pense que les Autrichiens se dérobent, qu'ils commencent à s'enfuir. Aussi disperse-t-il son armée afin de la lancer à sa poursuite. Mais au contraire, les Autrichiens se sont rassemblés en 3 colonnes massives qui se mettent en mouvement dès 8 heures du matin, le 14 juin 1800. Les Français disposent de 15 canons. En face, 100 canons autrichiens vont entrer en action. L'avant-garde française est bousculée et repoussée jusqu'au village de Marengo. Bonaparte ne dispose que des corps d'armée de Victor et Lannes, de la garde consulaire et de la division Monnier. Il a envoyé chercher Desseix et ses 5000 hommes. Mais où sont-ils vraiment? Arriveront-ils à temps? À 2 heures de l'après-midi, l'armée française est décimée. Elle va entamer une retraite prudente. Bonaparte a suivi cette déroute du haut d'un clocher. Il sait maintenant que Desseix est en route pour le rejoindre, mais il va sans doute arriver trop tard. Desseix est au galop avec ses troupes fraîches. Il se guide au son du canon et bientôt, il parvient en vue du champ de bataille de Marengo. Il place ses hommes et leurs armes en ordre de bataille, il fait donner le canon et bientôt la victoire change de camp. Les Autrichiens sont vaincus. Mais dès le début de l'engagement, Desseix, Louis Desseix, le pacificateur de l'Égypte, qui avait acquis le surnom de « Sultan Juste », son cheval lancé contre l'ennemi, a reçu une balle en plein cœur. Bonaparte, qui l'appréciait, est atterré. Ce soir-là, il dit, devant la dépouille de son général et ami,
« Pourquoi ne m'est-il pas permis de pleurer ?»
Le même jour, au Caire, Kléber, qui était resté en Égypte, est assassiné par un fanatique à la solde des Turcs. Battus au sud, les Autrichiens, mais encore présents et belliqueux à l'est, Moreau va les écraser à Hohenlinden, en Bavière, le 3 décembre 1800, prenant leur colonne sous un feu nourri dans une clairière entre deux forêts. Moreau les poursuit, se dirige vers Vienne, où il pourrait faire son entrée. Mais il fait demi-tour, ce que Napoléon lui reprochera jusqu'à Sainte-Hélène. La paix est ensuite signée à Lunéville le 9 février 1801. Une paix qui renforce le traité de Campo Formio, accordant à la France la rive gauche du Rhin, les territoires belges. Bonne nouvelle aussi du côté des Anglais, qui signent le 25 mars 1802 la paix d'Amiens. L'Égypte est restituée à la Turquie, la France récupère ses colonies. Cette paix est accueillie avec enthousiasme, mais rien n'est réglé en profondeur. La France et l'Angleterre demeurent de farouches rivales sur le plan commercial et industriel. Un semblant de paix s'installe, cependant.
Toussaint Louverture. Il est né esclave des Espagnols et des Anglais en 1743 à Saint-Domingue. La révolte contre les planteurs blancs, c'est lui qui l'a conduit. Le 4 février 1794, les députés français abolissent l'esclavage. Toussaint Louverture chasse de son île les Anglais et les Espagnols. Il fait alliance avec les Français. Excellent administrateur, il donne à Saint-Domingue une constitution où il est précisé que l'île est autonome mais qu'elle demeure dans l'Empire colonial français. La sécurité des planteurs y est garantie et le commerce devient florissant. Intolérable pour Bonaparte. Il envoie en février 1802 20 000 hommes qui vont tout casser et tout gâcher. Toussaint Louverture, qui devait son nom aux brèches qu'il savait pratiquer dans les lignes ennemies, est fait prisonnier. Il est emmené en France, détenu au fort de Joux, dans le Doubs. Il y souffre des rigueurs du climat, mais aussi des brimades, des vexations et des humiliations que lui font subir ses gardiens parce qu'il est noir. Il meurt de chagrin le 17 avril 1803.